Bonsoir et à toutes, merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition réunis en assemblée constituante ont achevé ce dimanche l'examen du projet de constitution. Les élus ont déposé 801 amendements. Le rapport contenant leurs recommandations sera remis le plus tôt possible au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Le texte doit être adopté en Conseil des ministres, puis soumis au référendum d'ici la fin de l'année, selon le calendrier annoncé. Les élections sont prévues pour août 2025. Au Ghana, la commission électorale a approuvé les candidatures de 13 personnes en course dans la présidentielle du 7 décembre. Parmi les candidatures retenues, celle du vice-président sortant Mahamudu Bouamia du New Patriotic Party au pouvoir, John Dramani Mahama du National Democratic Congress, principal parti d'opposition. L'organisme électoral a déclaré que 11 autres candidats ne sont pas qualifiés pour participer aux élections parce qu'ils ne remplissent pas les conditions requises. Les Ghanéens se rendront aux urnes en décembre pour choisir un nouveau président et des députés. L'Assemblée générale de l'ONU se penche ce dimanche sur la guerre entre les deux généraux rivaux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, qui déchire le Soudan depuis avril 2023. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées. Hier, les autorités sanitaires disent avoir recensé la mort de 14 civils dans les combats et 40 blessés, selon une source médicale. Les États membres de l'ONU se sont engagés à dessiner un avenir meilleur pour l'humanité, éprouvé par les guerres, la misère et le réchauffement climatique. Le pacte présente 56 actions dans des domaines tels que l'importance du multilatéralisme, le respect de la charte de l'ONU, le maintien de la paix, de la réforme des institutions financières, entre autres la Russie, soutenue par le Bélarus, l'Iran, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie, a voulu présenter un amendement affirmant que l'ONU ne peut pas intervenir dans les affaires internes des États, mais la grande majorité de l'Assemblée a refusé de prendre en compte cette proposition. L'Assemblée générale de l'ONU commence mardi à New York. L'ancien président Donald Trump a exclu de se présenter à la présidentielle américaine de 2028 en cas de défaite à l'élection du 5 novembre. « Non, je ne m'y vois pas, je ne m'y vois pas », a déclaré le candidat républicain de 78 dans l'émission Full Measure. Trump a toutefois dit espérer un succès dans les urnes le 5 novembre face à la candidate démocrate Kamala Harris. Les deux sont au coude à coude dans plusieurs États où tout va probablement se jouer. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé que le Liban devienne un autre Gaza à mesure que s'intensifie le conflit entre Israël et le Hezbollah. Il a aussi déploré qu'après presque une année de guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, aucune des parties ne veuille réellement d'une trêve, selon lui. La Maison-Blanche a prévenu son allié israélien qu'une escalade militaire à la frontière avec le Liban n'était pas dans son intérêt. L'Union européenne s'est déclarée extrêmement préoccupée. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'armée a porté au Hezbollah une série de coups après une nuit d'intenses échanges de tirs transfrontaliers qui ont poussé des centaines de milliers d'habitants du nord d'Israël à se réfugier dans des abris. Toujours en rapport avec ce conflit, la chaîne de télévision qatari Al Jazeera a annoncé que des soldats israéliens armés et masqués ont effectué ce dimanche une descente dans ses bureaux de Ramallah en Cisjordanie occupée. Il y a une décision de justice pour fermer Al Jazeera pendant 45 jours, a déclaré un soldat israélien au chef du bureau. L'armée israélienne a accusé à plusieurs reprises les journalistes de la chaîne qatari d'être des agents terroristes à Gaza affiliés au Hamas. Al Jazeera nie ces accusations et affirme qu'Israël prend systématiquement pour cible ses employés à Gaza. 4 membres du personnel d'Al Jazeera ont été tués depuis le début de la guerre. En Iran, plus de 50 personnes ont été tuées et 20 blessées dans l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. Une fuite de méthane a entraîné une explosion dans 2 blocs de la mine où se trouvaient environ 70 employés, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, tout en appelant les autorités à faire de leur mieux pour sauver les mineurs piégés. L'ancien président Donald Trump, justement, a exclu de se présenter à la présidentielle américaine de 2028. Je vous disais, c'est juste un rappel. Merci à vous d'avoir suivi ce bulletin d'information. Yacouba Ouédraogo à la présentation. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur voafrique.com et sur nos plateformes sociales.
tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manda qui est avec vous au micro depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique. Engagement du pape François pour un monde plus inclusif, c'est notre sujet de ce soir. Gisèle Morissin assure la production. Le pape François a conclu une tournée de 12 jours dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Durant son ambitieux voyage, François a visité l'Indonésie, le Timor, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Singapour. À travers ses discours et rencontres, il a promu un message de dialogue interreligieux, d'inclusivité et d'espoir, notamment avec les musulmans, et l'importance d'un monde inclusif face aux crises mondiales actuelles, qu'elles soient politiques ou climatiques. Pour décortiquer ce plus long et lointain voyage du pontificat de François, nous sommes en ligne avec le père Grégor Prichotko, chancelier du diocèse de Pontoise, en région parisienne, docteur en droit canonique et professeur dans plusieurs institutions. Il est spécialiste de l'histoire de l'Église, particulièrement en Asie centrale et en Europe de l'Est. Père Grégor, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Zahra El Berber, musulmane féministe, elle est chef d'entreprise d'origine marocaine. Zahra, bonsoir.
Bonsoir Eric,
et
merci pour cette invitation.
Merci, bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. C'est votre première participation, n'est-ce pas?
Tout à fait, sur cette thématique, effectivement.
Oui. Père Grégor, comment analysez-vous l'importance historique de cette tournée papale en Asie du Sud-Est et en Océanie?
Vous avez tout à fait raison, c'était vraiment un voyage historique parce que englober autant de pays si différents en quelques jours de l'autre bout du monde pour un pape qui a 87 ans avec un décalage d'horaire de 5 heures, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il y a plusieurs moments marquants qui ont accompagné ce voyage. C'est notamment la diversité sociétale et religieuse des pays que le pape a visité, avec une culture et histoire si diverses et si riches. Entre les pays numériquement le plus musulmans au monde, l'Indonésie et par exemple le Timor oriental, avec 97% de la population catholique.
Zahra, en tant que musulmane, comment percevez-vous le message du pape sur le dialogue interreligieux, notamment en Indonésie où il a insisté sur la coopération avec l'islam?
Je l'interprète tout simplement comme une confirmation, comme une continuité de ce qui est supposé se faire justement entre les différentes religions, sachant que dans tous les écrits, quelles que soient les principales religions, on retrouve effectivement des traces de ces fameuses communications, comme cette rencontre interreligieuse, qui bien évidemment a de toute façon été mise en place, surtout pour créer, rétablir des liens entre les différences.
Père Grégor, le message du pape sur le dialogue interreligieux avec l'islam en Indonésie a-t-il un écho particulier dans l'histoire des relations entre chrétiens et musulmans dans la région?
Ah bien évidemment, parce que l'histoire religieuse de l'Indonésie est très complexe. Le christianisme est arrivé dans ce pays au 7e et 9e siècle avec les missionnaires issus de l'église perse, mais il demeurait toujours très minoritaire. Et c'est surtout l'introduction forcée du christianisme occidental dans l'archipel lors de la colonisation au XVIe siècle avec l'arrivée des Portugais d'abord et ensuite des Néerlandais qui a été marquée vraiment par la violence quand les pouvoirs colonisateurs voulaient imposer la religion par la force. En ce qui concerne l'islam, il est arrivé sur l'archipel au XIe siècle par les voies marchandes et il trouva un grand succès parce qu'il apportait une conception individualiste des rapports sociaux, la notion de projection des intérêts par le contrat, ce qui ne pouvait manquer de séduire des milieux marchands. sa spiritualité aussi pouvait s'inscrire dans la vision du monde d'une société indonésienne traditionnelle. Mais on sait que à la fin, notamment du XXe siècle, au début du XXIe siècle, des conflits pouvaient opposer les représentants de ces deux religions qui ont été liés surtout, je crois, aux conflits politiques, économiques. Mais la religion était bien souvent instrumentalisée, surtout par certaines tendances un peu radicales. Donc, les uns les autres, les pouvoirs antagonistes ont utilisé l'appartenance à l'une ou l'autre religion comme amplificateur du conflit. Et par la suite, sous le régime très autoritaire du général Suharto, qui gouvernait l'Indonésie pendant 32 ans, donc entre 1967 et 1998, la tolérance religieuse était quand même relative, parce que ce régime, il réprimait les religions d'une certaine manière, comme le reliquat de passé, comme les anciens coutumes, au profit des nouvelles réformes de modernisation de la société. Actuellement, nous pouvons dire que il y a cette coexistence qu'on peut envier parce qu'elle est vraiment très, très équilibrée, mais il existe toujours quelques tensions dans la société, malheureusement, qui ont lieu surtout la population chrétienne avait peur lors de l'expansion de Daesh, où certains Indonésiens ont pris aussi partie, certains Indonésiens des courants très radicaux. Et donc la société avait peur de retour de ces personnes afin que des conflits nouvelles n'éclatent pas dans le pays dont la composition est très variée et l'équilibre existant, très apprécié par tout le monde, peut être affaibli par cela. Mais pour l'instant, il est bien maintenu, on peut le dire vraiment.
Le pape a encouragé les jeunes à sortir de leur zone de confort et à prendre des risques. Zahra, pensez-vous que ce message résonne avec la jeunesse musulmane, notamment en termes de prise de responsabilité sociale et religieuse?
Alors oui, effectivement, la jeunesse aujourd'hui commence, heureusement, à prendre le relais de plus en plus jeune et permet justement cette passerelle entre les anciennes générations et les nouvelles, tout en conservant les valeurs morales, l'éthique et le message qui est supposé être justement transmis de génération en génération. Et justement, je pense que c'est probablement par rapport à ça que ça a été la mosquée Istiqlal qui a été choisi à Jakarta pour accueillir justement le pape François. Il a rencontré justement l'imam Nasruddin Omar et ça a vraiment été une rencontre qui a été placée sous le signe de la fraternité entre chrétiens et musulmans d'Indonésie. Et surtout par rapport à la jeunesse, je pense que c'est un message que donc cette ancienne génération transmet via cette rencontre interreligieuse pour montrer justement la voie à suivre aux jeunes générations. Donc concrètement, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement la jeunesse a un rôle à jouer, qu'elle jouera correctement à partir du moment où ceux qui vont être là justement pour leur donner le relais vont pouvoir, par le biais d'actions comme celle-ci en Indonésie, leur montrer qu'on ne peut avancer qu'en étant les uns avec les autres, au-delà des différences, quel que soit le culte. L'essentiel est d'avancer tous ensemble.
Lors de son passage en Indonésie, le pape a mis l'accent sur l'inclusion et la lutte contre la pédocriminalité. Zahra, toujours vous, quel parallèle pouvez-vous faire entre ces enjeux et ceux des sociétés musulmanes actuelles?
Alors justement, le souci qui se pose aujourd'hui, également dans la sphère scolaire, sur tout ce sujet-là, qui touche la pédocriminalité, tout ce qui va toucher la protection de l'enfance, il y a un grand souci, et pas uniquement dans les pays occidentaux. Je pense que s'ils ont visé un si gros endroit, parce qu'il faut quand même savoir que cette mosquée où s'est déroulé cet échange, c'est une mosquée qui peut accueillir jusqu'à 120 000 personnes. Et c'est un édifice qui, de toute façon, n'est pas utilisé uniquement en tant que lieu de culte. Il faut savoir que c'est également utilisé, c'est supposé accueillir toutes sortes de personnes, même si sa confession est différente. C'est une maison pour l'humanité. Et il faut savoir que régulièrement, il y a des activités interconfessionnelles, interculturelles, diplomatiques qui se déroulent pour la simple raison que cette thématique que vous venez justement d'évoquer, tout ce qui va tourner autour du problème de la pédophilie, qui malheureusement est un désastre au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit vraiment être abordé sous toutes ses formes. Ce n'est pas que de la diplomatie, pas que de la religion, pas que de l'éducation. Ça englobe énormément de choses et il faut vraiment que la jeunesse d'aujourd'hui qui va prendre le relais en prend conscience. Parce que sans ces valeurs qui sont fondées sur le respect mutuel, l'amour réciproque, on ne pourra pas fonder quelque chose de suffisamment rigide pour lutter contre le fondamentalisme, l'extrémisme, qui sont toujours malheureusement dangereux et justifiés par les personnes qui vont malheureusement tomber dans ces cercles vicieux. Mais en parallèle, tous ces hommes de foi qui aujourd'hui sont des symboles, sont écoutés, s'ils transmettent correctement l'information à la jeunesse et que la jeunesse est suffisamment accompagnée pour elle-même prendre le relais, on est supposé d'ici quelques années, on l'espère en tout cas, éradiquer ce genre de problème qui malheureusement sévit beaucoup trop.
Père Grégor, comment le thème du pape sur l'inclusivité est-il interprété dans le contexte des conflits mondiaux comme en Ukraine, Gaza, Soudan et le Sahel? Pensez-vous que cet appel peut être réalisable face à l'hostilité religieuse et politique dans certaines parties du monde?
Certes, le message du pape « tous, tous, tous » est un appel à l'inclusion et l'Indonésie en donne un merveilleux exemple. Et je suis tout à fait d'accord avec Zara que, effectivement, la jeunesse va jouer son rôle dans l'avenir. Et pour bâtir cette inclusivité dans le respect de l'autre, dans le partage des valeurs essentielles de l'humanité, il faut avoir un dialogue. Et donc, le pape, en tant que chef de l'Église catholique, ouvre l'Église à tout dialogue sans exclusion. Parce que personne ne doit se sentir exclu de cet amour de Dieu dont les représentants des différentes religions se réclament et désirent. Donc, le pape François rappelle que son message s'adresse à tous les peuples et à toutes les cultures. Et cet appel est en résonance avec sa mission. Malheureusement, dans le contexte des conflits armés, comme qui sont aujourd'hui en Ukraine, à Gaza, au Sahel, ce message est très difficile à passer parce qu'il n'y a pas de lieu de dialogue qui pourrait vraiment simuler quelque chose qui pouvait se baser sur les valeurs communes. Donc la paix est nécessaire pour pouvoir bâtir cette inclusivité, ce monde qui respecte chacun. Et dans les conflits armés, marqués par l'hostilité et l'absence de dialogue total, ce message est très difficile à passer malheureusement.
Vous suivez donc le dialogue des religions, engagement du pape François pour un monde plus inclusif. C'est notre sujet de ce soir que nous abordons avec le père Grégor Prichotko et madame Zara Elberber. Ne quittez pas, nous revenons dans un instant. Zara, je me tourne vers vous. Le thème de la protection de l'environnement a également été central. Comment les dirigeants musulmans peuvent-ils collaborer avec d'autres confessions pour faire avancer cette cause au niveau global?
Alors effectivement, au niveau global, il faut vraiment sensibiliser individuellement chaque groupe de personnes pour arriver à un résultat qui effectivement serait satisfaisant. Si justement le pape François et l'imam Disterpal ainsi que d'autres représentants, ce ne sont pas les seuls signataires, ils ont justement signé une déclaration commune orientée sur deux principaux axes, dont justement le changement climatique. Il faut comprendre par ce geste qu'ils ne font que renouveler ce qui a déjà été fait sur un document concernant la fraternité qui avait été fait à Abu Dhabi en 2019 avec un autre imam, l'imam El-Fayed. C'est simplement redonner du souffle à des actions qui ont déjà été mises en avant à l'époque, mais qui ont réellement besoin à nouveau d'être mis en lumière, d'être mis en valeur, pour faire comprendre à tout le monde que sans un changement climatique assez rapide, de nouvelles résolutions et une nouvelle façon de gérer nos déchets, notre pollution, notre façon de vivre, etc., on court vraiment vers quelque chose de très regrettable, mais il est encore temps de faire changer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, concrètement, les actions à mener pour y arriver restent, comme je le disais au tout début, des actions individuelles sur des petits groupes de personnes, en espérant changer, influer les mentalités.
Revenant sur l'idée d'un monde plus inclusif, mais face aux guerres en Ukraine, Gaza, Soudan et au Sahel, cette vision semble difficile à réaliser, n'est-ce pas, Zahra? Quel est, selon vous, le rôle des leaders religieux, notamment musulmans, dans la promotion de la paix et de l'inclusivité?
Je pense qu'au niveau de l'inclusivité, les personnalités, les personnes qui, justement, les porte-parole également, mais aussi toutes ces personnes influentes devraient continuer à œuvrer en donnant ce message à un maximum de personnes, un message tout simplement de paix qui invite les personnes à revenir vers une pratique plus assidue de leur religion en se basant sur des textes et non pas en se basant sur ce qui est transmis de bouche à oreille. Parce que malheureusement, une personne qui va se baser sur des que dira-t-on pour apprendre et donc pratiquer sa religion va malheureusement très rapidement tomber dans des sombres sentiers égarés. Alors que si les personnalités, tous ces porte-paroles pouvaient inciter les personnes à revenir vers les écrits, on remarquerait très rapidement qu'effectivement ce qui est mis le plus en avant dans tous les écrits, hein, que ce soit le Saint-Coran ou les traditions prophétiques, les sunnas, on se rendrait compte que l'amour du prochain, le respect de l'autre, le respect du monde animal, le respect de notre planète, etc., sont normalement des priorités pour chacun d'entre nous. Revenir aux écrits, je pense que ça reste une des seules solutions pour pouvoir atteindre tous ces objectifs.
Père Grégoire, quel rôle les dirigeants religieux devraient-ils jouer pour surmonter les tensions liées aux différences religieuses et promouvoir la paix dans des contextes de guerre?
Toujours appeler, et là je rejoins absolument Zahra qui est magnifiquement formée cette idée de promouvoir le dialogue, parce que c'est dans le dialogue où se construit la paix. Quand il n'y a pas de dialogue, quand les personnes sont séparées par un mur de haine, quand même dans les lieux où les personnes cohabitent ensemble, il n'y a pas de dialogue, par conséquent ça engendre les peurs qui peuvent ensuite quand on ne connaît pas quelqu'un, on a forcément quelque part peur de cet inconnu. Mais si on creuse le problème plus profondément, le tout autre Dieu devient n'est pas Dieu d'amour, mais quelqu'un de qui il faut avoir peur. Par conséquent, tous les leaders des religions mondiales et on salue toutes ces initiatives qui ont lieu dans le monde, ont ce devoir, à mon avis, de promouvoir le dialogue, de faire connaître leur religion auprès des autres, de pouvoir partager les principes qui unissent tous, parce qu'il y a des principes universels et qui sont à la base de la pratique religieuse dans les différentes religions, et c'est sur ces principes qu'on peut construire un dialogue, par conséquent qu'on peut promouvoir la paix et construire ensemble, dans le respect de chacun, un monde plus inclusif et transformer ce monde parce que nous sommes en vérité.
Père Grégoire, en une minute, selon vous, l'accent du pape sur la protection de l'environnement représente-t-il une nouvelle approche de l'Église par rapport à son rôle historique dans la société ?
Je crois que actuellement, plus ou moins toutes les religions sont d'accord qu'il faut protéger la création, que cela fait partie intégrante de notre foi, que comme le dit le pape François lui-même dans son lettre Laudato Si, je cite, vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Je crois que les représentants des autres religions peuvent absolument convenir dans cette option, dans cette vision du monde qui nous est confiée et que nous devons protéger pour pouvoir le transmettre à nos enfants, à ceux qui viendront après nous.
Zara, dans une minute, croyez-vous que les messages du pape, notamment sur les droits des travailleurs migrants, ont trouvé un écho suffisant dans les pays visités ?
Alors effectivement, ce sont des régions du monde où les travailleurs clandestins ont de plus en plus c'est impressionnant, il suffit de voir le boycott de certaines marques ici en Occident, lorsqu'on apprend que les personnes qui sont employées clandestinement dans certains pays sont surexploitées. Donc ça, en fait, c'est une réflexion mondiale, parce qu'on se rend compte que ça ne se passe pas qu'en Asie. C'est une réflexion qui porte le consommateur à se diriger vers un commerce équitable, un commerce qui n'engendre pas de la maltraitance ailleurs. Et je pense que si cette thématique a été abordée pendant cet événement, c'est parce qu'il y a une prise de conscience, et heureusement, parce que comme ils l'ont si bien dit, il suffirait que la population et les décideurs politiques soient correctement informés, que les journaux, les télévisions s'emparent de tous ces sujets pour que les choses bougent réellement. Mmh. Parce que l'ignorance, aujourd'hui, est omniprésente, et la meilleure façon de conduire des actions à aboutir, c'est tout simplement d'informer la population.
En 30 secondes, selon vous, Zara, comment la promotion du dialogue interreligieux par le pape peut-elle contribuer à un monde plus inclusif, notamment pour les femmes dans les sociétés musulmanes ? Le temps passe.
Tout simplement, je pense, en faisant ce qu'ils ont fait à Jakarta, ils ont vraiment montré, pointé du doigt, que le fait de se rassembler, de communiquer, de chercher des solutions ensemble, c'est la solution pour justement trouver des solutions à toutes ces choses qui aujourd'hui compliquent le quotidien de nous.
Père Grégoire, en moins d'une minute, à quel point l'influence du pape François et son approche peuvent-elles transformer durablement la place de l'Église dans un monde de plus en plus pluraliste et marqué par la division ?
Bien sûr, c'est une question difficile, car seul l'avenir pourra nous montrer quels fruits vont porter ces voyages, quel fruit va porter ce message de promouvoir le dialogue entre les différentes religions, entre les différentes cultures. Mais ce qui est sûr, c'est que l'influence du pape peut motiver ce dialogue. Et ces voyages, c'est pour cela que les voyages dans les pays les plus différents possibles dans leur composition ethnique, religieuse, culturelle, c'est vraiment une possibilité de donner son point de vue, de donner le point de vue des chrétiens aussi dans le monde pour pouvoir arriver à cette à travers cette universalité, cette inclusivité, toucher les cœurs des uns et des autres, voir quelles valeurs universelles sont accessibles qui sont accessibles à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté.
Merci
et
beaucoup.
Dans ce contexte,
oui, terminez votre phrase, oui.
Voilà, et dans ce contexte, ce message est très important.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette discussion sur la récente tournée du pape François en Asie du Sud-Est et en Océanie. Ce voyage est marqué par des messages forts de dialogue et d'ouverture. Eric Manelakis a été avec vous. Merci au père Grégoire et à madame Zara pour votre contribution respective. Au revoir et à bientôt.